Chapitre 12. Horizon sombre, femme sans mari, amante sans amant. La reine se trompait, Charny n'allait point chez la comtesse. Il allait à la poste royale faire mettre des chevaux de poste à sa voiture. Seulement, tandis qu'on attelait, il entra chez le maître de poste, demanda plume, encre, papier, et écrivit à la comtesse une lettre qu'il chargea le domestique qui ramenait ses chevaux de porter chez elle. La comtesse, à demi couchée sur son canapé, placé à l'angle du salon, et ayant un guéridon devant elle, était occupée à lire cette lettre, lorsque Weber, selon le privilège des gens qui venaient de la part du roi ou de la reine, fut introduit près d'elle, sans annonce préalable. « Monsieur Weber, dit la femme de chambre en ouvrant la porte, et en même temps Weber parut. La comtesse plia vivement la lettre qu'elle tenait à la main et l'appuya contre sa poitrine, comme si le valet de chambre de la reine fût venu pour la lui prendre. Weber s'acquitta de sa commission en allemand. C'était toujours un grand plaisir pour le brave homme que de parler la langue de son pays, et l'on sait qu'André avait appris cette langue dans sa jeunesse et était arrivé, par la familiarité, où 10 ans l'avait tenu la reine à parler cette langue comme sa langue maternelle. Une des causes qui avait fait regretter à Weber ce départ d'André et sa séparation de la reine, c'était cette occasion que perdait le digne Allemand de parler sa langue. Aussi insista-t-il, bien vivement, espérant sans doute que de l'entrevue sortirait un rapprochement pour que, sous aucun prétexte, André ne manquât au rendez-vous qui lui était donné, lui répétant à plusieurs reprises que la reine avait contremandé une entrevue qu'elle devait avoir le soir même avec le docteur Gilbert afin de se faire maîtresse de sa soirée. André répondit simplement qu'elle se rendrait aux ordres de Sa Majesté. Weber sortit, la comtesse se tint un instant immobile et les yeux fermés, comme une personne qui veut chasser de son esprit toute pensée étrangère à celle qui l'occupe, et seulement lorsqu'elle eut réussi à bien rentrer en elle-même, elle reprit sa lettre dont elle continua la lecture. La lettre lue, elle la baisa tendrement et la mit sur son cœur. Et puis, avec un sourire plein de tendresse, « Ah, Dieu vous garde, chère âme de ma vie, dit-elle, j'ignore où vous êtes, mais Dieu le sait, et mes prières savent où est Dieu. » Alors, quoiqu'il fût impossible de deviner pour quelle cause la reine l'a demandé, sans impatience comme sans crainte, elle attendit le moment de se rendre aux Tuileries. Il n'en était pas de même de la reine. Prisonnière en quelque sorte au château, elle errait pour user son impatience du pavillon de Flore au pavillon Marsan. Monsieur l'aida à passer 1 heure. Monsieur était venu aux Tuileries afin de savoir comment Favras avait été reçu par le roi. La reine, qui ignorait la cause du voyage de Charny et qui voulait se garder cette voie de salut, engagea le roi beaucoup plus qu'il ne s'était engagé lui-même et dit à monsieur qu'il eût à poursuivre et que, le moment venu, elle se chargeait de tout. Monsieur, de son côté, était joyeux et plein de confiance. L'emprunt qu'il négociait avec le banquier génois, que nous avons vu apparaître un instant dans sa maison de campagne de Bellevue, avait réussi, et la veille, monsieur de Favras, intermédiaire dans cet emprunt, lui avait remis 2 millions, sur lequel il n'avait pu, lui, monsieur, faire accepter à Favras que 100 louis, dont il avait absolument besoin pour arroser le dévouement de 2 drôles sur lesquels Favras avait juré qu'il pouvait compter et qui devait le seconder dans l'enlèvement royal. Favras avait voulu donner à monsieur des renseignements sur ces 2 hommes, mais monsieur, toujours prudent, avait non seulement refusé de les voir, mais encore de connaître leurs noms. Monsieur était censé ignorer ce qui se passait. Monsieur donnait de l'argent à Favras parce que Favras avait été autrefois attaché à sa personne. Mais ce que faisait Favras de cet argent, monsieur ne le savait pas et ne le voulait point savoir. D'ailleurs, en cas de départ du roi, nous l'avons déjà dit, monsieur restait. Monsieur avait l'air d'être en dehors du complot, monsieur criait à l'abandon de sa famille, et comme monsieur avait trouvé le moyen de se faire très populaire, il était probable, la royauté étant encore très enracinée au cœur de la plupart des Français, il était probable, comme l'avait dit Louis XVI à Charny, que monsieur serait nommé régent. Dans le cas où l'enlèvement manquait, monsieur ignorait tout, monsieur niait tout, ou bien monsieur, avec les 15 ou 1 800 000 francs qui lui restaient d'argent comptant, allait rejoindre à Turin monsieur le comte d'Artois et messieurs les princes de Condé. Monsieur parti, la reine usa une autre heure chez madame de Lamballe. La pauvre princesse, dévouée à la reine jusqu'à la mort, on l'a vu dans l'occasion, n'avait toujours été cependant que le pis-aller de Marie-Antoinette, qu'il avait successivement abandonné pour porter son inconstante faveur sur André et sur Madame de Polignac. Mais la reine la connaissait, elle n'avait qu'à faire un pas vers cette véritable amie pour que celle-ci, les bras et le cœur ouverts, fît le reste du chemin. Aux Tuileries, et depuis le retour de Versailles, la princesse de Lamballe habitait le pavillon de Flore, où elle tenait le véritable salon de Marie-Antoinette, comme faisait à Trianon Madame de Polignac. Toutes les fois que la reine avait une grande douleur ou une grande inquiétude, c'était à Madame de Lamballe qu'elle allait, preuve que là, elle se sentait aimée. Alors, sans avoir besoin de rien dire, sans même faire la douce jeune femme confidente de cette inquiétude ou de cette douleur, elle posait sa tête sur l'épaule de cette vivante statue de l'amitié, et les larmes qui coulaient des yeux de la reine ne tardaient pas à se mêler aux pleurs qui coulaient de ceux de la princesse. Oh, pauvre martyr! Qui osera aller chercher, dans les ténèbres des alcôves, si la source de cette amitié était pure ou criminelle, quand l'histoire inexorable, terrible, viendra les pieds dans ton sang, lui dire de quel prix tu l'as payé? Puis le dîner fit passer une autre heure. On dînait en famille avec Madame Élisabeth, Madame de Lamballe et les enfants. Au dîner, les deux augustes convives étaient préoccupés. Chacun d'eux avait un secret pour l'autre. La reine, l'affaire Favras, le roi, l'affaire Bouillé. Bien au contraire du roi qui préférait devoir son salut à tout, même à la Révolution, plutôt qu'à l'étranger, la reine préférait l'étranger à tout. D'ailleurs, il faut le dire, ce que nous autres Français appelions l'étranger, c'était pour la reine la famille. Comment aurait-elle pu mettre dans la balance ce peuple qui tuait ses soldats, ces femmes qui venaient l'insulter dans les cours de Versailles, ces hommes qui voulaient l'assassiner dans ses appartements, cette foule qu'il appelait l'Autrichienne, avec les rois à qui elle demandait secours, avec Joseph II, son frère, avec Ferdinand Ier, son beau-frère, avec Charles IV, son cousin germain par le roi, dont elle était plus proche parent que le roi ne l'était lui-même des d'Orléans et des Condés. La reine ne voyait donc pas, dans cette fuite qu'elle préparait, le crime dont elle fut accusée depuis. Elle n'y voyait le seul moyen, au contraire, de maintenir la dignité royale et, dans ce retour à main armée qu'elle espérait, la seule expiation à la hauteur des insultes qu'elle avait reçues. Nous avons montré à nu le cœur du roi. Lui se défiait des rois et des princes. Il n'appartenait pas le moins du monde à la reine, comme beaucoup l'ont cru, quoiqu'il fût allemand par sa mère. Mais les Allemands ne regardent pas les Autrichiens comme des Allemands. Non, le roi appartenait aux prêtres. Il ratifia tous les décrets contre les rois, contre les princes et contre les émigrés. Il opposa son veto aux décrets contre les prêtres. Pour les prêtres, il risqua le 20 juin, subit le 10 août, soutint le 21 janvier. Aussi le pape, qui ne put en faire un saint, en fit-il au moins un martyr. Contre son habitude, la reine ce jour-là resta peu avec ses enfants. Elle sentait bien que, son cœur n'étant pas tout entier au père, elle n'avait pas droit à cette heure aux caresses des enfants. Le cœur de la mère, ce viscère mystérieux qui couvre les passions et fait éclore le repentir, le cœur de la femme connaît seul ses contradictions étranges. De bonne heure, la reine se retira chez elle et s'enferma. Elle dit qu'elle l'allait écrire et mit Weber de garde à sa porte. D'ailleurs, le roi remarqua peu cette retraite, préoccupé qu'il était lui-même des événements inférieurs, il est vrai, mais non sans gravité, dont Paris était menacé et dont le lieutenant de police, qui attendait chez lui, venait l'entretenir. Ces événements les voici en deux mots. L'Assemblée, comme nous l'avons vu, s'était déclarée inséparable du roi, et le roi à Paris, elle était venue l'y rejoindre. En attendant que la salle du manège qui lui était destinée fût prête, elle avait choisi pour lieu de ses séances la salle de l'archevêché. Là, elle avait changé par un décret le titre de roi de France et de Navarre en celui de roi des Français. Elle avait proscrit les formules royales de notre science certaine et de notre pleine puissance, et leur avait substitué celle-ci, Louis par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'État. Ce qui prouvait que l'Assemblée nationale, comme toutes les assemblées parlementaires dont elle était la fille ou l'aïeule, s'occupait souvent de choses futiles quand elle eût dû s'occuper de choses sérieuses. Par exemple, elle eût dû s'occuper de nourrir Paris, qui mourait littéralement de faim. Le retour de Versailles et l'installation du boulanger, de la boulangère et du petit Mitron aux Tuileries n'avaient pas produit l'effet qu'on en attendait. La farine et le pain continuaient à manquer. Tous les jours, il y avait attroupement à la porte des boulangers, et ces attroupements causaient de grands désordres. Mais comment remédier à ces attroupements? Le droit de réunion était consacré par la Déclaration des droits de l'homme. Mais l'Assemblée ignorait tout cela. Ses membres n'étaient pas obligés de faire queue aux portes des boulangers, et quand par hasard quelqu'un de ses membres avait faim pendant la séance, il était toujours sûr de trouver, à 100 pas de là, des petits pains frais chez un boulanger nommé François, qui demeurait rue du Marché Palu, district de Notre-Dame, et qui, faisant jusqu'à 7 ou 8 fournées par jour, avait toujours une réserve pour messieurs de l'Assemblée. Le lieutenant de police était donc occupé à faire part à Louis XVI de ses craintes relativement à ces désordres et qui pouvaient un beau matin se changer en émeute lorsque Weber ouvrit la porte du petit cabinet de la reine et annonça à demi-voix « Madame la comtesse de Charny ». Quoique la reine eût fait elle-même demander André, quoiqu'elle s'attendît par conséquent à l'annonce qui venait d'être faite, elle tressaillit de tout son corps aux 5 mots que venait de prononcer Weber. C'est que la reine ne pouvait pas se dissimuler qu'entre elle et André, dans ce pacte fait, pour ainsi dire, dès le premier jour où, jeune fille, elle s'était vue au château de Tavernet, il y avait eu un échange d'amitié et de services rendus dans lequel elle, Marie-Antoinette, avait toujours été l'obligée. Or, rien ne gêne les rois comme ses obligations contractées, surtout lorsqu'elles tiennent aux plus profondes racines du cœur. Il en résultait que la reine, qui envoyait chercher André, croyant avoir de grands reproches à lui faire, ne se rappelait plus, en se trouvant en face de la jeune femme, que les obligations qu'elle lui avait. Quant à André, elle était toujours la même, froide, calme, pure comme le diamant, mais tranchante et invulnérable comme lui. La reine hésita un instant pour savoir de quel nom elle saluerait la blanche apparition qui passait de l'ombre de la porte dans la pénombre de l'appartement et qui entrait peu à peu dans le cercle de lumière projeté par les 3 bougies du candélabre placé sur la table où elle s'accoudait. Enfin, étendant la main vers son ancienne amie, « Soyez la bienvenue, aujourd'hui comme toujours, André, » dit-elle. Si forte et si préparée qu'elle se présenta aux Tuileries, ce fut à André de tressaillir à son tour. Elle l'avait reconnu dans ces paroles que venait de lui adresser la reine un souvenir de l'accent avec lequel, autrefois, lui parlait la dauphine. « Ai-je besoin de dire à votre majesté, » répondit André, abordant la question avec sa franchise et sa netteté ordinaire, que si elle m'eût toujours parlé comme elle vient de le faire, elle n'eût pas eu besoin, avant de me parler, de m'envoyer chercher hors du palais qu'elle habite. » Rien ne pouvait mieux servir la reine que cette façon dont André entrait en matière. Elle l'accueillit comme une ouverture dont elle allait profiter. « Hélas, lui dit-elle, vous devriez le savoir, André, vous, si belle, si chaste, si pure, vous, dont aucune haine n'a troublé le cœur, vous, dont aucun amour n'a bouleversé l'âme, vous que les nuages de la tempête peuvent couvrir et faire disparaître comme une étoile qui, chaque fois que le vent balaie l'orage, reparaît plus brillante au firmament. Toutes les femmes, même les plus haut placées, n'ont pas votre immuable sérénité. Moi surtout, moi qui vous ai demandé secours et à qui vous l'avez si généreusement accordé. La reine, répondit André, parle de temps que j'avais oublié et dont je croyais qu'elle ne se souvenait plus. La réponse est sévère, André, dit la reine, et cependant je la méritais. Vous avez raison de me la faire. Non, c'est vrai, tant que j'ai été heureuse, je ne me suis pas rappelé votre dévouement, et cela peut être parce qu'aucune puissance humaine, pas même la puissance royale, ne m'offrait un moyen de m'acquitter envers vous. Vous avez dû me croire ingrate, André, mais peut-être ce que vous preniez pour de l'ingratitude n'était que de l'impuissance. J'aurais le droit de vous accuser, madame, dit André, si jamais j'eusse désiré ou demandé quelque chose et que la reine se fût opposée à mon désir, eût repoussé ma demande, mais comment Sa Majesté veut-elle que je me plaigne, puisque je n'ai rien désiré ni demandé? Eh bien, voulez-vous que je vous le dise, ma chère André? C'est justement cette espèce d'indifférence des choses de ce monde qui m'épouvante en vous. Oui, vous me semblez un être surhumain, une créature d'une autre sphère, emportée par un tourbillon et jetée parmi nous, comme ces pierres épurées par le feu et qui tombent, on ne sait de quel soleil. Il en résulte qu'on est d'abord effrayé de sa faiblesse en se trouvant en face de celle qui n'a jamais faibli. Mais ensuite on se rassure, on se dit que la suprême indulgence est dans la suprême perfection, que c'est à la source la plus pure qu'il faut laver son âme, et dans un mouvement de profonde douleur, on fait ce que je viens de faire, André, on envoie chercher cet être surhumain dont on craignait le blâme pour lui demander la consolation. Hélas, madame, dit André, si telle est réellement la chose que vous demandez de moi, j'ai bien peur que le résultat ne réponde pas à l'attente. André, André, vous oubliez dans quelles circonstances terribles vous m'avez déjà soutenu et consolé, dit la reine. André pâlit visiblement. La reine, la voyant chancelante et les yeux fermés, comme quelqu'un dont la force s'en va, fit un mouvement de la main et du bras pour l'attirer sur le même canapé qu'elle, mais André résista et demeura debout. Madame, dit-elle, si votre majesté avait pitié de sa fidèle servante, elle lui épargnerait des souvenirs qu'elle était presque parvenue à éloigner d'elle. C'est une mauvaise consolatrice que celle qui ne demande de consolation à personne, pas même à Dieu, parce qu'elle doute que Dieu lui-même ne soit pas impuissant à consoler certaines douleurs. La reine fixa sur André son regard clair et profond. Certaines douleurs, dit-elle, mais vous avez donc encore d'autres douleurs que celles que vous m'avez confiées? André ne répondit pas. Voyons, dit la reine, l'heure est venue de nous expliquer, et je vous ai fait quérir pour cela. Vous aimez, monsieur de Charny? André devint pâle comme une morte, mais resta muette. Vous aimez, monsieur de Charny? Répéta la reine. Oui, dit André. La reine poussa un cri de lionne blessée. Ah, dit-elle, je m'en doutais. Et depuis quand l'aimez-vous? Depuis la première heure où je l'ai vue. La reine recula, effrayée devant cette statue de marbre qui s'avouait une âme. Oh, dit-elle, et vous vous êtes tue? Vous le savez mieux que personne, madame. Et pourquoi cela? Parce que je me suis aperçue que vous l'aimiez. Voulez-vous donc dire que vous l'aimiez plus que je ne l'aimais, puisque je n'ai rien vu? Ah, fit André avec amertume, vous n'avez rien vu parce qu'il vous aimait, madame. Oui, et je vois maintenant, parce qu'il ne m'aime plus, c'est cela que vous voulez dire, n'est-ce pas? André resta muette. Mais répondez donc, dit la reine, en lui saisissant non plus la main, mais le bras, avouez qu'il ne m'aime plus. André ne répondit ni par un mot, ni par un geste, ni par un signe. En vérité, s'écria la reine, c'est à en mourir, mais tuez-moi tout de suite en me disant qu'il ne m'aime plus. Ah, voyons, il ne m'aime plus, n'est-ce pas? L'amour ou l'indifférence de monsieur le comte de Charny sont ses secrets, ce n'est point à moi de les dévoiler, répondit André. Ses secrets, non pas à lui seul, car je présume qu'il vous a prise pour confidente, dit la reine avec amertume. Jamais monsieur le comte de Charny ne m'a dit un mot de son amour ou de son indifférence pour vous. Pas même ce matin. Je n'ai pas vu monsieur le comte de Charny ce matin. La reine fixa sur André un regard qui cherchait à pénétrer au plus profond de son cœur. Voulez-vous dire que vous ignorez le départ du comte? Je ne peux pas dire cela. Mais comment connaissez-vous ce départ si vous n'avez pas vu monsieur de Charny? Il m'a écrit pour me l'annoncer. Ah, dit la reine, il vous a écrit? Et de même que Richard III, dans un moment suprême, avait crié « Ma couronne pour un cheval », Marie-Antoinette fut près de crier « Ma couronne pour cette lettre ». André comprit ce désir ardent de la reine, mais elle voulut se donner la joie de laisser un instant sa rivale dans l'anxiété. « Et cette lettre que le comte vous a écrite au moment du départ, je suis sûr, vous ne l'avez pas sur vous. »« Vous vous trompez, madame, dit André, la voici. » Et tirant de sa poitrine la lettre tiède de sa chaleur et embaumée de son parfum, elle attendit à la reine. Celle-ci la prit en frissonnant, la serra un moment entre ses doigts, ne sachant pas si elle devait la conserver ou la rendre, et regardant André avec des sourcils froncés, puis enfin, jetant loin d'elle toute hésitation, « Oh, dit-elle, la tentation est trop forte !» Elle ouvrit la lettre, et se penchant vers la lumière du candélabre, elle lut ce qui suit. « Madame, je quitte Paris dans une heure sur un ordre formel du roi. Je ne puis vous dire où je vais, pourquoi je pars, ni combien de temps je resterai hors de Paris, de toutes choses qui, probablement, vous importent fort peu, mais que j'eusse cependant désiré être autorisé à vous dire. J'ai eu un instant l'intention de me présenter chez vous pour annoncer mon départ de vive voix, mais je n'ai point osé le faire sans votre permission. » La reine savait ce qu'elle désirait savoir. Elle voulut rendre la lettre à André, mais celle-ci, comme si c'eût été à elle de commander et non d'obéir. « Allez jusqu'au bout, madame, lui dit-elle. » La reine reprit la lecture. « J'avais refusé la dernière mission que l'on m'avait offerte, parce que je croyais alors, pauvre fou, qu'une sympathie quelconque me retenait à Paris, mais depuis, hélas, j'ai acquis la preuve du contraire, et j'ai accepté avec joie cette occasion de m'éloigner des cœurs auxquels je suis indifférent. Si, pendant ce voyage, il en arrivait de moi, comme du malheureux Georges, toutes mes mesures sont prises, madame, pour que vous soyez instruite, la première, du malheur qui m'aurait frappé et de la liberté qui vous serait rendue. Alors seulement, madame, vous sauriez quelle profonde admiration a fait naître dans mon cœur votre sublime dévouement, si mal récompensé par celle à qui vous avez sacrifié, jeune, belle et née pour être heureuse, la jeunesse, la beauté et le bonheur. Alors, madame, tout ce que je demande à Dieu et à vous, c'est que vous accordiez un souvenir au malheureux qui, si tard, s'est aperçu de la valeur du trésor qu'il possédait. Tout le respect du cœur, comte Olivier de Charny. La reine tendit la lettre à André, qui la reprit cette fois et la laissa retomber près d'elle avec un soupir, sa main inerte presque inanimée. « Eh bien, madame, murmura André, êtes-vous trahi? Ai-je manqué, je ne dirai pas, à la promesse que je vous ai faite, car je ne vous ai jamais fait de promesse, mais à la foi que vous aviez mise en moi. « Pardonnez-moi, André, dit la reine, oh, j'ai tant souffert. Vous avez souffert, vous osez dire devant moi que vous avez souffert, madame, et moi, que dirais-je donc? « Oh, je ne dirai pas que j'ai souffert, car je ne veux pas employer une parole dont se soit déjà servie une autre femme pour peindre la même idée. Non, il me faudrait un mot nouveau, inconnu, inouï, qui fût le résumé de toutes les douleurs, l'expression de toutes les tortures. vous avez souffert, et cependant vous n'avez pas vu, madame, l'homme que vous aimiez, indifférent à cet amour, se retourner à genoux et son cœur dans les mains vers une autre femme. Vous n'avez pas vu votre frère, jaloux de cette autre femme qu'il adorait en silence, et comme un païen sa divinité, se battre avec l'homme que vous aimiez. Vous n'avez pas entendu l'homme que vous aimiez blessé par votre frère d'une blessure crue un instant mortelle, n'appeler dans son délire que cette autre femme dont vous étiez la confidente. Vous n'avez pas vu cette autre femme se glisser comme une ombre dans les corridors où vous erriez vous-même pour entendre ces accents de délire qui prouvaient que si un amour insensé ne survivait point à la vie, il accompagnait au moins jusqu'au seuil du tombeau. Vous n'avez pas vu cet homme, revenant à la vie par un miracle de la nature et de la science, ne se lever de son lit que pour tomber aux pieds de votre rival. De votre rival, oui, madame, car en amour, c'est à la grandeur de l'amour que se mesure l'égalité des rangs. Vous ne vous êtes point alors, dans votre désespoir, retiré à 25 ans dans un couvent, cherchant à éteindre sur les pieds glacés d'un crucifix cet amour qui vous dévorait. Et puis, un jour, après un an de prières, d'insomnie, de jeûne, de désirs impuissants, de cris de douleur, quand vous espériez avoir, sinon éteint, du moins endormi, la flamme qui vous consumait, vous n'aviez pas vu cette rivale, votre ancienne amie, qui n'avait rien compris, qui n'avait rien deviné, venir vous trouver dans votre solitude pour vous demander quoi, au nom d'une ancienne amitié, que les souffrances n'avaient pu altérer, au nom de son salut comme épouse, au nom de sa majesté royale compromise, venir vous demander d'être la femme de qui? De cet homme que, depuis 3 ans, vous adoriez, femme sans mari, bien entendu, un simple voile jeté entre les regards de la foule et le bonheur d'autrui, comme un linceul est étendu entre un cadavre et le monde. Vous n'avez pas dominé, enfin non point par la pitié, l'amour jaloux n'a pas de miséricorde, et vous le savez bien, vous, madame, qui m'avez sacrifié, vous n'avez pas dominé par le devoir, accepté l'immense dévouement, vous n'avez pas entendu le prêtre vous demander si vous preniez pour époux un homme qui ne serait jamais votre époux. Vous n'avez pas senti cet homme vous passer au doigt un anneau d'or qui, gage d'une éternelle union, n'était pour vous qu'un vain et insignifiant symbole. Vous n'avez pas, une heure après la célébration du mariage, quitté votre époux pour ne le revoir que comme l'amant de votre rival. Ah, madame, madame, les 3 années qui viennent de s'écouler sont, je vous le dis, 3 cruelles années. La reine souleva sa main défaillante, cherchant la main d'André. André écarta la sienne. « Moi, je n'avais rien promis, dit-elle, et voilà ce que j'ai tenu. Vous, madame, continua la jeune femme, se faisant accusatrice, vous m'aviez promis 2 choses. « André, André, fit la reine, vous m'aviez promis de ne pas revoir monsieur de Charny, promesse d'autant plus sacrée que je ne vous la demandais pas. » André, puis vous m'aviez promis, oh, cette fois, par écrit, vous m'aviez promis de me traiter comme une sœur, promesse d'autant plus sacrée que je ne l'avais pas sollicitée. André, faut-il que je vous rappelle les termes de cette promesse que vous m'avez faite dans un moment solennel, dans un moment où je venais de vous sacrifier ma vie, plus que ma vie, mon amour, c'est-à-dire mon bonheur en ce monde et mon salut dans l'autre? Oui, mon salut dans l'autre, car on ne pêche point que par action, madame, et qui me dit que le Seigneur me pardonnera mes désirs insensés, mes vœux impies. Eh bien, dans ce moment où je venais de tout vous sacrifier, vous m'avez remis un billet. Ce billet, je le vois encore, chaque lettre flamboie devant mes yeux. Ce billet, il était conçu en ces termes. André, vous m'avez sauvé, mon bonheur ne vient que de vous, ma vie est en vous, au nom de cet honneur qui vous coûte si cher, je vous jure que vous pouvez m'appeler votre sœur, essayez, vous ne me verrez pas rougir, je remets cet écrit entre vos mains, c'est le gage de ma reconnaissance et c'est la dot que je vous donne. Votre cœur est le plus noble de tous les cœurs, il me saura gré du présent que je vous offre, Marie-Antoinette. La reine poussa un soupir d'abattement. Oui, je comprends, dit André, parce que j'ai brûlé ce billet. Vous croyez que je l'avais oublié? Ah non, madame, non. Vous voyez que j'en avais retenu chaque parole, et au fur et à mesure que vous paraissiez ne plus vous en souvenir, oh, moi, je m'en rappelais davantage. Oh, pardonne-moi, pardonne-moi, André, je croyais qu'il t'aimait. Vous avez donc cru que c'était une loi du cœur, que parce qu'il vous aimait moins, madame, il devait en aimer une autre? André avait tant souffert qu'elle devenait cruelle à son tour. Vous aussi, vous êtes aperçu qu'il m'aimait moins? Dit la reine avec une exclamation de douleur. André ne répondit pas. Seulement elle regarda la reine éperdue, et quelque chose comme un sourire se dessina sur ses lèvres. « Mais que faut-il faire, mon Dieu? Que faut-il faire pour retenir cet amour, c'est-à-dire ma vie qui s'en va? Oh, si tu sais cela, André, mon ami, ma sœur, dis-le-moi, je t'en supplie, je t'en conjure. » Et la reine étendit les deux mains vers André. André recula d'un pas. « Puis-je savoir cela, madame, dit-elle, moi, qu'il n'a jamais aimé? Oui, mais... il peut t'aimer, un jour il peut venir à tes genoux, faire amende honorable du passé, te demander son pardon pour tout ce qu'il t'a fait souffrir. Les souffrances sont vite oubliées, mon Dieu, dans les bras de celui qu'on aime. Le pardon est si vite accordé à celui qui nous a fait souffrir. Eh bien, ce malheur arrivant, oui, ce serait probablement un malheur pour toutes deux, madame. « Oubliez-vous qu'avant d'être la femme de Monsieur de Charny, il me restait un secret à lui apprendre, une confidence à lui faire, secret terrible, confidence mortelle, qui tuerait à l'instant même cet amour que vous craignez. Oubliez-vous qu'il me resterait à lui raconter ce que je vous ai raconté à vous ?» Vous lui diriez que vous avez été violée par Gilbert, vous lui diriez que vous avez un enfant ? Oui. « Mais en vérité, madame, dit André, pour qui me prenez-vous donc pour manifester un pareil doute ?» La reine respira. « Ainsi, dit-elle, vous ne ferez rien pour essayer de ramener à vous, monsieur de Charny ?»« Rien, madame, pas plus dans l'avenir que je ne l'ai fait dans le passé. »« Vous ne lui direz pas, vous ne lui laisserez pas soupçonner que vous l'aimez ?»« À moins que lui-même ne vienne me dire qu'il m'aime, non, madame. » Et s'il vient vous dire qu'il vous aime, si vous lui dites que vous l'aimez, vous me jurez. Oh, madame, dit André, interrompant la reine. Oui, oui, dit la reine, oui, vous avez raison, André, ma sœur, mon ami, je suis injuste, exigeante, cruelle. Oh, mais quand tout m'abandonne, ami, pouvoir, réputation, oh, je voudrais au moins que cet amour auquel je sacrifierais réputation, pouvoir, ami, je voudrais au moins que cet amour me restât. « Et maintenant, madame, dit André avec cette froideur glaciale qui ne l'avait abandonnée qu'un seul instant quand elle avait parlé des tortures souffertes par elle, avez-vous quelques nouveaux renseignements à me demander, quelques nouveaux ordres à me transmettre ?»« Non, rien, merci. Je voulais vous rendre mon amitié, je vais vous la refuser. Adieu, André, emportez au moins ma reconnaissance. » André fit de la main un geste qui semblait repousser ce second sentiment, de même qu'elle avait repoussé le premier, et faisant une froide et profonde révérence, sortit, lente et silencieuse, comme une apparition. Ah, oh, tu as bien raison, corps de glace, cœur de diamant, âme de feu, de ne vouloir ni de ma reconnaissance, ni de mon amitié, car je le sens, et j'en demande pardon au Seigneur, mais je te hais comme je n'ai jamais haï personne. Ah, car s'il ne t'aime déjà, oh, j'en suis bien sûr, il t'aimera un jour. » Puis, appelant Weber, « Weber, dit-elle, tu as vu Monsieur Gilbert ?»« Oui, Votre Majesté, répondit le valet de chambre. » « À quelle heure viendra-t-il demain matin ?»« À 10 heures, madame. »« C'est bien, Weber. Préviens mes femmes que je me coucherai sans elles ce soir et que, souffrante et fatiguée, je désire qu'on me laisse dormir jusqu'à 10 heures. La première et la seule personne que je recevrai sera monsieur le docteur Gilbert. »